Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce petit 7ème épisode de Torréfaction, notre rendez-vous hebdomadaire sur Geekzone avec l'actu. Alors pas l'actu qui fait pleurer comme ce qui se passe à Houston pour le moment ou d'autres missiles qui passent au-dessus du Japon par exemple, CAF, nous on parle pas de ça.
Non, nous on évite, nous on parle des trucs rigolos.
Des trucs rigolos qui nous font kiffer et on se dit que du coup ça vous fera plaisir aussi d'en entendre parler. On va commencer par notre section gaming avec Destiny 2 pour PC.
Ouais, alors c'est pas pour en dire du mal, hein, c'est pour apporter une petite précision parce que... Destiny 2 sur PC est en bêta actuellement, comme vous le savez, j'ai fait circuler quelques codes à quelques petits amis proches via des indics planqués dans certaines grosses sociétés de jeux vidéo. Merci les gars. Et en fait, c'est vraiment un produit qui est hyper intéressant parce que il continue dans la... Tu sais, les gens se le vannent un peu, ils l'appellent Destiny 1.5 pour être... tu vois, ça c'est le côté méchant du truc. Après, la version PC est super réussie. Techniquement, ça défonce. C'est vraiment super beau, super optimisé. Si on vient de trois options un petit peu gourmandes, j'ai remarqué qu'au niveau des shadows, il y a un système... Enfin, on peut être un peu moins gourmand que ce que propose le réglage maximum. Mmh. Et moi, j'ai réussi à jouer en 2560 à 60 FPS sans problème. Le truc ne bouge pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, c'est locké à 60 FPS quand même. Hein, tu vois. Donc le moteur, c'est 30 ou 60. Le moteur fonctionne un petit peu comme ça, j'ai l'impression. Bon, bref.
Ça devient un peu courant, ça, quand même, les framelock à 30 ou 60.
Ouais, hein. Pas tant que ça. Sur PC, les mecs évitent. Mais comme le jeu est vraiment bordé console à la base, je pense que ça vient de là aussi. Mm. La problématique, c'est que moi, je trouve ça absolument chiant comme gameplay. Donc, il y a des gens qui adorent, qui s'éclatent, qui vont aller farmer le truc, qui vont faire du multi. Déjà le multi, moi je trouve que du 4 contre 4 rapide comme ça, je trouve un peu ça chiant, mais c'est la bêta, il y a peut-être plus de modes de jeu dans la version complète et c'est très possible. Le seul truc, c'est que en fait, si vous, je voulais juste donner un indice, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que si vous aimez pas The Division, les Borderlands, des trucs comme ça, vous allez pas kiffer Destiny si vous avez pas joué au 1 et que vous savez pas quoi vous attendre. C'est ce qu'on appelle les éponges à balles, les ennemis, c'est-à-dire qu'il faut tirer dessus pendant 1000 ans. Mm. T'es en FPS et tu vides ton chargeur et tu vides un deuxième chargeur et les combats sont dynamiques, les ennemis sont intéressants, mais c'est un rythme de jeu, un style de jeu qui est très particulier dans le genre un peu FPS, TPS, et du coup ça plaît pas à tout le monde. Moi je sais que je m'endors au bout d'un moment, c'est vraiment c'est le jeu qui me tombe des mains et ça m'emmerde parce que j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les histoires de scénar un peu barré qu'ils ont. Il y a des trucs qui j'aimerais bien savoir un peu ce qui se passe, le lore, le machin, mais sortez-moi le film parce que le jeu en fait je me fais chier. Donc voilà. En revanche, le techniquement foncé, si vous aimez le style de gameplay, la bêta est quand même, elle sent assez bon et je pense que vous allez vous régaler. Mais c'est un vrai style à part et du coup vous attendez pas à une révolution, ils ont pas transformé le jeu, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'ils avaient fait avant. Il avait pas si mal marché que ça, donc c'est normal.
Et c'est quoi, c'est une bêta ouverte du coup?
Alors presque, c'est une open bêta qui se finissait hier, le 31, qui en fait avait une petite astuce, les codes dont je parlais tout à l'heure, c'était pour pouvoir y jouer dès le 28.
D'accord.
C'est-à-dire que ça permet d'avoir un petit côté early access, donc c'est des fausses bêtas, on va pas se mentir, le jeu il est terminé, on n'est pas dans les PUBG et compagnie, on est dans de la bêta, ce que j'appelle les bêta marketing, pour faire de la démo déguisée, vérifier que les serveurs explosent pas en vol et go quoi. Mais et le jeu ne font, enfin, il y aura pas de modification parce que Bob au fin fond du Kentucky a trouvé qu'il y avait un gun qui était complètement broken, tu vois. Mmh. Donc ça c'est de la fausse bêta, c'est des démos modernes comme on appelle ça.
C'est pour avoir des trucs sur Twitch et compagnie quoi.
C'est ça, ça permet de lancer un peu le marketing et ça leur coûte pas très cher.
Destiny 2 donc sur PC qui vient de sortir de bêta, le jeu sort quand?
Le 5, c'est pour dire à quel point ils vont pas bouger au niveau du jeu. 5 septembre 2017, hein, au cas où vous auriez un doute.
Alors on va parler de Capcom qui ressort pour fêter les 30 ans de Street Fighter 2 en fait. Ils ressortent la cartouche sur Super NES. Alors c'est une version cartouche collector qui a été faite donc en collaboration avec une société qui s'appelle I Am 8-Bit, qui est une société californienne qui apparemment avait été fondé à la base pour bosser dans tout ce qui est production autour des events jeux vidéo, donc faire des t-shirts, des trucs artistiques un peu, des trucs collector, machin, etc. Qui s'est depuis diversifié à d'autres domaines de l'entertainment, mais qui pour le coup revient donc à ses premiers amours avec le jeu vidéo. Et donc avec Capcom, ils vont sortir cette version série limitée à 5500 exemplaires dans le monde. C'est une cartouche qu'on pourra trouver en deux formats. Il y a aucune garantie sur le format que vous allez recevoir en revanche, donc ça fait un peu grincer des dents. Il y a une version couleur rouge, donc la couleur du bandana de Ryu, et la deuxième version, alors accroche-toi, c'est une version verte, hein, ça va te plaire, ouais. De Blanca donc, et c'est une version qui brille dans le noir.
Oh mon dieu.
Alors là où ça coince un peu, c'est au niveau du prix, hein, c'est 100 balles quand même, 100 dollars
pour
la cartouche, voilà.
Donc, j'ai envie de te dire... Paye ta nostalgie, quoi.
Bah, en fait, comme le disait très justement nos amis de Gamekult, c'est le prix que coûtait le jeu à la sortie à l'époque.
C'est
hein,
pas
mais
faux.
Bon, voilà. Aujourd'hui, ça vaut peut-être plus ce prix-là. Il y aura à l'intérieur du boîtier donc la cartouche, le manuel d'instruction qui apparemment était agrémenté, donc un manuel de luxe, on va dire, et puis d'autres surprises qu'ils n'ont pas dévoilées pour l'instant, mais on se doute qu'il ne s'agira pas d'une figurine. Ce sera plus que probablement des stickers ou des pins qui parlent, qui sait.
Les années 90,
nostalgie,
bonjour.
Voilà. A priori, il s'agit du jeu d'origine, donc rien de neuf, mais il y a un petit disclaimer qui est assez rigolo sur le site qui vend la cartouche, donc le site d'IAM 8-Bit, qui préviennent quand même qu'ils garantissent pas que votre Nintendo ne prenne pas feu si vous mettez la cartouche dedans, parce que comme c'est quand même une vieille machine qui va sur ses 25 ans, ils recommandent donc de garder un extincteur à proximité si tu joues au jeu avec cette cartouche-là. Donc je trouve ça vraiment très rassurant pour les gens qui voulaient effectivement l'enficher dans leur console et y jouer, c'est peut-être pas l'idée, ça sera plutôt pour mettre dans une vitrine et dire voilà, moi j'ai un des 5500 exemplaires de Street Fighter 2 13th Anniversary Edition. Je sais pas si tu vas craquer toi, mais moi je
non, jamais de
pas.
La vie. Voilà. Déjà, un, j'ai plus la machine. Deux, je crois, si je l'ai eu en fait, celle-là, j'ai eu un vieux doute pendant une demi-seconde. Mais en plus, c'est super les émulateurs, ça prend pas de place, ça prend pas la poussière. Par contre, t'as pas besoin de souffler dans la cartouche. Quoi. Donc
voilà, puis 100 balles pour un produit qui est finalement pas si nostalgique que ça, puisque c'est une nouvelle cartouche qui a été fabriquée exclusivement pour l'anniversaire. C'est pas non plus un truc qui date d'une certaine époque avec une aura particulière. Donc je comprends pas trop la manœuvre, mais je suis sûr que ça va cartonner. C'est ça qui est pire.
Bon, c'est du marketing pour Capcom de toute façon. Donc je pense que c'est aussi une manière de faire un peu plaisir aux fans et puis de faire vivre la marque qui passe un très bon moment avec. Street Fighter V que tout le monde adore et que personne
je veux dire, ne critique,
qui n'a de critique, il y a pas de défaut, tout va bien, nickel.
Voilà, si vous avez de l'argent et de la nostalgie, donc Street Fighter 2 sur Super NES dans une édition spéciale, et si vous avez celle qui brille dans le noir, je veux bien une photo parce que ça m'intrigue quand même. On va passer du côté des apps avec c'est quoi, Urza Gatherer.
Oula, ouais, alors tu me demandes
pas.
Ah,
mais oui, c'est le projet de notre Geekzonien, ça.
Ouais, alors en fait, c'est Urza Gatherer.
D'accord.
Tu vois,
yeah.
tu as raté une syllabe. Donc, ça sert à quoi? C'est un truc. Alors, ça, les enfants, vous trouverez pas cette news ailleurs, parce que donc, c'est une news qui nous vient du forum de Geekzone. Ça, c'est du fait maison, monsieur. Qui est développé par un des utilisateurs du site, qui s'appelle David, et qui fait un truc. Plus nerdy, je crois qu'il n'y a pas, en fait. Et c'est ça qui me fait plaisir et c'est pour ça que je voulais en parler. C'est un gestionnaire de cartes Magic.
D'accord.
Et là, tu poses le débat d'entrée de jeu. Parce que quand on a ras-le-bol de pas pouvoir gérer tes collections, tes decks et tout correctement, eh bien voilà, tu as ce truc-là qui va te permettre de tout faire numériquement pour après préparer tes trucs avec tes cartes. Et là où c'est fort, c'est que le soft, donc c'est un monsieur très impliqué dans l'univers Windows, hein, et Microsoft en général. Donc il a fait une version Windows 10 qui fonctionne sur Xbox One, sur Windows Mobile, et même sur HoloLens. Donc là je dis ok. D'accord.
Il est allé à fond, quoi.
Ça fonctionne partout. Bah, après, c'est le kit de dev fonctionne un peu comme ça. Donc, c'est aussi une manière d'utiliser les dernières techs. Mm. Du coup, on vous met le lien vers le thread du forum qui parle de cette petite chose. Il y a du gros taf. Ça fonctionne en français, en anglais. Non, c'est respect total. Donc, je voulais en parler un petit peu dans le podcast de cette semaine.
Eh ben, écoute, voilà qui est fait. Ça lui fera sûrement plaisir. Et puis, j'avais lu son post. Là, il a quand même, il a un long descriptif des explications de tout ce qui
est
mis
dedans.
En place et tout, c'est vraiment
ouais,
super
ouais.
Complet, donc
GG
à lui.
Si vous jouez à Magic ou vous êtes juste curieux, allez jeter un œil, c'est rigolo.
On va parler musique avec Cheap Sounds, j'en ai parlé hier sur Geekzone, c'est un VST, c'est un émulateur de vieux chipsets son, on reste dans la nostalgie, décidément, j'avais pas fait gaffe.
Et une émission de vieux, disons,
voilà, c'est
quelle
ça.
Surprise alors.
C'est donc un émulateur de vieux chipsets son 8-bit des années 80. Alors ça va du Pola de l'Amiga au Tia du
meilleur PCS. Meilleur chip, tu peux t'arrêter, voilà. Tous les autres c'est de la merde, c'est fini.
Au VCS 2600, donc le Tia, le AY3-8910 qu'on retrouvait dans le Atari ST, le ZX Spectrum. Et oui monsieur,
c'était de la merde.
Le Poki de l'Atari 400-800, le 2A03 qui a été beaucoup utilisé par Nintendo, et puis bien évidemment le SID du Commodore 64.
Maximum respect,
et puis bien d'autres encore, hein, des moins connus. J'ai listé tout ça sur la news qui est sur Geekzone. Ça fonctionne comment? C'est un hybride en fait entre un sampler et de la synthèse analogique. Les puristes vont un peu grincer des dents parce que dès qu'on met du sampling dans de l'émulation analogique, c'est un peu bizarre. Mais ici, plutôt que d'essayer d'aller chercher un son authentique, ils ont plutôt essayé de trouver quelque chose qui sonne réaliste en fait et qui donne un petit peu plus de pêche à ces vieux chipsets. Alors ça coûte un peu cher, ça coûte 96€, mais vu le nombre de chipsets embarqués dans l'émulateur, c'est plutôt cool, et puis ça va faire plaisir à tous les gens qui se lancent dans la chiptune aujourd'hui et qui ont un peu les moyens de s'offrir des trucs comme ça. Donc
ça vous coûtera moins cher que d'aller bricoler les bécanes d'origine ou
ouais, ce sera peut-être moins fun aussi, mais cela dit, si vous voulez avoir tout sous la main dans un dos sur PC et pouvoir faire de la chiptune sans avoir effectivement à vous prendre la tête avec les câbles et les connexions de vos Game Boy et compagnie, c'est peut-être la solution. Je rappelle que pour ceux qui n'ont pas de sous, il y a un autre émulateur du même genre qui s'appelle le BASIC 64 et BASIC 65 dans sa nouvelle version, qui est développé par Deamancha, qui est un développeur qui fait souvent des plugins gratos, et pour le coup celui-là l'est aussi. Donc voilà, si vous n'avez pas de sous, vous pouvez aller regarder du côté de BASIC 64-65, qui lui pour le coup est limité au SID du Commodore 64, mais bon, c'est déjà un bon début, et puis il y a déjà moyen de faire des choses très très bien avec le SID du 64. On va rester dans la musique avec une autre app, c'est Soundhound. Je sais pas si tu connaissais, toi.
Ah bah si, ça fait des années que j'utilise ces trucs. Je crois que c'était une des premières apps sur smartphone, où je me disais, ah, c'est donc ça le futur. C'est donc ça la magie.
Bah moi je me souvenais surtout de Shazam. C'est vrai que Soundhound, je l'avais installé à l'époque aussi pour tester, mais je l'avais lâché. Et là en fait ils sont passés à une version 8 avec une toute nouvelle, un redesign complet de l'interface, avec des nouvelles fonctionnalités de recherche. Ils ont amélioré la vitesse de reconnaissance. Ils ont refondu le soft complètement. Maintenant il y a une interface qui est divisée en trois sections. Donc il y a une section historique, une section découverte, la classique, celle qui est centrale, et puis il y a aussi un player. Ça c'est la nouveauté, c'est qu'on peut désormais linker en fait son compte Spotify ou son compte YouTube avec
son compte Apple Music,
j'oubliais, avec le soft, et ça permet d'écouter les morceaux en entier. Quand on découvre un morceau, ben on peut du coup aller écouter l'intégralité du morceau dans de bonnes conditions. La recherche malheureusement est toujours un peu limite. Alors je pensais que comme ils avaient un deal avec Spotify, ils allaient pouvoir bénéficier des empreintes sonores de chez Spotify. C'est manifestement pas le cas. Parce que j'ai fait quelques essais, alors avec des trucs relativement connus ou mainstream, ça marche plutôt pas mal. J'ai essayé avec mes morceaux, en revanche, ils les trouvent pas alors qu'ils sont sur Spotify. J'étais très triste. Donc voilà.
Je te rassure, j'ai testé avec des trucs de K-pop hyper connus et il les a pas non plus.
Ah bah voilà.
Le soft évolue parce que de toute façon, sinon c'est la mort, parce que maintenant tu prends ton téléphone avec Siri, tu fais Siri, quel est ce morceau? Je pense que ça marche avec OK Google. Donc à mon avis, derrière, si tu veux, pour ce type de marché, ce type de service, c'est en train de devenir un truc normal dans un smartphone de base en fait. Mm-hmm. Donc ils sont un peu obligés d'évoluer, quoi.
Ouais, et pour le moment, ben s'ils pouvaient évoluer du côté de la DB, hein, des empreintes, ça serait plutôt une bonne chose. Les redesigns d'interface, c'est pas forcément le truc dont on a besoin tout de suite. Il y a quand même pas des milliards de manières de faire. Mais bref, donc si vous cherchez une alternative à Shazam, vous connaissiez pas Soundhound ou que vous n'aviez plus suivi l'actu du soft, sachez donc qu'il est passé à une V8. Ça vaut la peine de tester. C'est toujours gratuit, c'est toujours bardé de pubs aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Côté culture, tu voulais nous parler de musique.
Oui, bah justement, un truc qu'il reconnaît pas, Glenn Check. faudrait que j'essaye avec Siri. D'ailleurs, Siri, c'est Shazam qu'ils intègrent pour la petite histoire.
Mais c'est ça, en fait, Soundhound, ils intègrent maintenant OK Google, en fait. Enfin, tu peux dire OK Soundhound et puis tu peux lui demander un truc et il répond.
Ouais, mais la DB derrière, bref. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Glenn Check.
Revenons à Glenn Check.
Glenn Check, c'est un truc dont je voulais vous parler vite fait, parce que c'est on est dans la culture, donc il faut un petit peu étendre vos horizons. Et pour une fois, je voulais vous parler. Non pas de K-pop, ne partez pas, restez à côté.
Ça va.
C'est de l'électro qui nous vient de Corée, mais fait par deux énergumènes qui eux ont été élevés dans différents pays, mais qui maintenant sévissent depuis la Corée, et qui ont un espèce de duo expérimental électro hyper intéressant. Je voulais en parler, pourquoi ? Parce qu'ils sortent un nouvel album, enfin un nouvel EP plutôt, parce qu'il n'y a pas non plus un milliard de titres, qui s'appelle The Glenn Check Experience, mm-hmm. avec un single qui s'appelle Follow the White Rabbit. On vous mettra tous les petits liens sur la news qui va bien sur Geekzone. Je vais pas vous refaire la page Wikipédia parce que ce n'est pas très intéressant. Le seul truc à savoir, c'est que c'est vraiment un groupe un petit peu expérimental qui vient un petit peu dans le mainstream dernièrement. Parce que bah, je crois qu'ils ont faim et je crois qu'ils aiment bien l'argent et tout le monde ne peut pas non plus faire du R parce que bah, c'est un petit peu, je pense, leur inspiration. Ils ont des sons, ils ont des sonorités qui sont quand même un peu Frenchy. D'ailleurs, ils ont un titre qui s'appelle The French Virgin Party dans un album qui s'appelle Haute Couture. Donc je pense qu'ils ont.
Oui, les inspirations sont claires. Oui.
Voilà, donc je voudrais pas dire, mais je crois qu'on a un indice. Je vous mettrai des liens de titres qui sont pour moi des trucs un petit peu intéressants. Il y a un single qui s'appelle Racket, un autre qui s'appelle Young Generation sur des albums plus anciens où ils étaient encore dans un trip un peu plus expérimental. Là, ils sont un peu dans un truc un peu plus chanté, vocodé, etc. C'est des sonorités qui vont pas non plus vous surprendre parce que c'est des trucs que vous avez pas entendus. Sinon, ce qui aurait pas d'intérêt de vous présenter ce groupe-là. Mais il y a des inspirations réelles de trucs un peu plus connus. Et à mon avis, ça vaut le coup de le découvrir. Peut-être que sur un malentendu, ça va vous plaire et je vais pouvoir vous refiler des cast-off. Quand je dis cast-off, c'est tout ce qui est K-pop, K-indie, K-rock.
Comment je sens arriver la rubrique K-pop dans les prochains torréfactions?
Pas du tout, tu vois. Et je peux tout fourguer en mode culture, genre, hop, j'ai le droit.
Mais si, face, regarde, les gens, ils ont bien aimé dans les forums et tout, on peut
perché,
le faire.
Perché.
Bon, cela dit, moi, je propose qu'on écoute carrément un petit extrait très rapide. Tu veux qu'on passe quoi, du coup?
Écoute, on va se faire Painted Gold, qui est un de mes morceaux préféré, qui est un assez ancien, et puis si ça vous plaît, vous irez checker les petits liens qui sont sur les news.
Painted Gold, donc, parmi les morceaux à découvrir et parmi l'EP donc de Glenn Check, dont on fichera tous les liens sur la news. On va parler comics avec un Humble Bundle Books plutôt sympa qui propose donc l'intégrale, si j'ai bien compris, en tout cas on n'est pas loin de l'intégrale de tout ce qui est sorti chez l'éditeur de comics américain Dynamite dans la série Battlestar Galactica. Alors il y a autant la série des classiques Battlestar qui s'inspire de la première série, hein, celle de la fin des années 70, et puis il y a une autre série sur le BSG plus récent, le reboot de Ronald D. Moore, avec des sous-séries comme Cylon War, Cylon Apocalypse, Final Five. A priori, donc, tout le catalogue de Dynamite sur BSG est disponible chez Humble Bundle. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il y a quand même quelques noms assez connus qu'on retrouve au niveau de l'écriture, notamment un certain Rick Remender, qui est un monsieur qui a fait beaucoup de trucs très très chouettes chez Marvel, dont les Uncanny Avengers, ou plus récemment un arc isolé qui s'appelait Rage of Ultron, que je vous recommande, qui est assez barré. On retrouve aussi Dan Abnett et Andy Lanning, qu'on connaît mieux sous le sobriquet de DNA. Donc c'est eux qui ont inventé les Guardians of the Galaxy modernes, ceux qu'on a retrouvés plus ou moins au cinéma. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Donc si ça vous intéresse, c'est pour le moment donc sur le Humble Comics Bundle. Et vous payez ce que vous voulez. Comme d'habitude, il y a plusieurs paliers. Hein, un palier à $1, un palier à $8, un palier à $15. Et en gros, vous avez de quoi vous occuper pendant un bon moment. Il y a pas mal de séries, de sous-séries qui ont l'air assez sympas. Donc voilà, c'est sur Humble Bundle Store en ce moment, le bundle comics dédié à Battlestar Galactica chez Dynamite. Et on va passer du côté de la tech avec une histoire d'email dans la nature, encore une, j'ai envie de dire.
Ouais, mais c'était surtout pour faire un petit point sur comment réaliser que votre email et donc vos passwords associés sont un peu disponibles chez des amis russes, par exemple, au hasard. Mmh. Parce que c'est quand même souvent de ce côté-là que ça se passe.
Complètement, ouais.
Et donc, la dernière blague en date, c'est 700 millions d'emails qui sont partis comme ça, se balader chez des gens qu'on ne connaît pas vraiment.
Vache.
711 millions même, d'ailleurs. Ça a été découvert par une boîte française, en plus, qui a découvert qu'il y a un petit spam bot qui s'appelle Onliner, était en train de faire des choses pas très propres. Je vous mettrai la news de chez nos amis de NextWeb parce que il y a un peu le déroulé et c'est un peu compliqué de savoir qui a fait quoi. Le seul truc qui, moi, m'intéressait dans tout ça, c'était de vous dire que, primo, il y a un site qui vous permet de vérifier si votre mail est dispo dans un hack qu'il y a eu ces dernières années. Ça s'appelle Have I Been Pwned? Donc, avec l'accent français, je vous mettrai le petit lien qui va bien. Comme ça, vous aurez juste à cliquer. On est gentil avec vous. C'est un truc qui est pratique parce que ça va vous dire, ok, ce mail-là, je l'ai vu passer dans tel et tel et tel hack. Mm-hmm. Bon, mon adresse historique Gmail, elle est, je pense, dans tous les hacks depuis l'histoire d'Internet.
Je pense que
moderne.
La mienne, ça doit être le cas aussi. Ouais.
C'est ça. Le problème, c'est qu'évidemment, j'ai changé de mot de passe de plein de trucs depuis que ce soit des services qui soient associés à cet email. Le mail, d'ailleurs, lui-même, enfin, pas le mot de passe de ce mail-là. Il y a plein de trucs que j'ai mis en place pour éviter d'être complètement à poil. Mais c'est pas pris en compte, puisque du coup, ça vous dit juste si le mail a été vu dans une base de données. Donc, pour avoir un truc un peu plus précis et plus utile, les gestionnaires de mots de passe modernes ont un système qui permet de voir un petit peu mieux ce qui se passe. OnePassword a un truc intégré qui s'appelle Watchtower, par exemple. Watchtower, ça fait quoi? Ça vous dit, tiens, enfin, ils ont une base de données à eux et ils voient quand il y a eu un hack. Et en fonction de la date du hack et de la date de votre mot de passe, ils vont savoir s'il y a une chance que ce mot de passe soit dans le hack. Et du coup, pour avoir un truc propre, le soft est capable de vous dire tel et tel et tel site, ce qui serait bien, en fait, c'est que tu changes ton mot de passe maintenant parce que ça pue. Mmh. Donc là, derrière, il y a un mode Watchtower. Moi, si j'y vais, je vois que je suis un mauvais élève parce qu'il y a encore pas mal de sites, ok, dont j'ai rien à foutre, j'avoue, où mon mot de passe potentiellement est dans la nature. Comme ce sont des mots de passe séparés, moi, de toute façon, c'est pas très grave. Mais si vous faites partie des gens qui utilisent le même mot de passe partout, j'ai des noms. Vous allez avoir un petit souci. C'est comme ça qu'on se retrouve à se faire hacker dans tous les sens, sur plein de services différents. J'ai un copain dont il n'y a pas très longtemps qui a dû pleurer pour aller récupérer son compte Steam, son compte Origin et compagnie, qui étaient tous partis en Russie. Et pour le coup, il était sûr vu que les messages et les questions secrètes étaient écrits en russe. Donc, c'était quand même assez évident. Heureusement, il y a maintenant des procédures pour récupérer tout ça. Mais faites super gaffe. C'est un peu comme l'histoire des backups hier. C'est les mots de passe, c'est hyper sérieux. Faites gaffe. Arrêtez d'utiliser un truc débile et d'avoir le même partout parce que ça va vous péter à la gueule un jour et ça va pas vous faire rire.
Ça me rappelle que je m'étais fait hacker mon compte Origins par un russe qui avait plié le jeu, qui m'avait tout débloqué. Du coup, c'était vraiment cool. En fait, j'ai pas joué pendant 2 mois et puis je suis revenu, j'ai vu qu'il avait des noms d'amis en russe, etc. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai rechangé le mot de passe et j'ai pu jouer au jeu avec toutes les bagnoles, c'était cool.
Alors ça, c'est fort. Ouais, voilà, tu vois, alors, ok, de temps en temps, ça peut être pratique.
Oui, mais c'est vraiment des cas très rares. Hein.
C'est ça, mais généralement, ça va pas vous faire rire.
Bon, on va passer à ton rant et je crois que cette fois-ci, on va s'attaquer, une fois n'est pas coutume, au téléphone Android.
Non, non, on ne sait pas en fait.
Ah.
On ne sait pas, on est dans l'inquiétude.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Parce que de quoi j'ai envie de vous parler, les enfants, c'est du truc de, comment dirais-je, un peu stupide, qui consiste à mettre l'équivalent du Touch ID, vous savez, le petit truc qui va lire votre empreinte digitale sur un iPhone. Alors, ça a des noms divers sur Android, mais le principe est exactement le même. Mais maintenant, avec nos super téléphones hyper beaux, avec pas de bezel, il n'y a plus de rebord, c'est tout fin, l'écran prend toute la place, c'est magnifique, mais du coup, il n'y a plus la place de mettre des putains de boutons. Donc, du coup, on va vous le mettre derrière, donc au dos du téléphone. Ce qui n'est pas complètement débile quand on a le téléphone en main. Parce que tu peux avoir le doigt sur derrière, bon, tu cherches un peu, c'est pas hyper ergonomique, mais pourquoi pas. Avec un index, ça passe. Mais globalement, quand il est posé sur le bureau, c'est le truc le plus con de la Terre. Et alors moi, mon cas d'usage perpétuel pour aller checker s'il se passe un truc, c'est le téléphone sur le bureau, et tu regardes, et t'appuies sur le bouton, et ça se déloque, et c'est magique, et c'est comme ça que ça doit marcher. le mettre au dos du téléphone, c'est complètement con. Et donc, là, il y a quand même des rumeurs depuis un petit moment qui font flipper, puisque, a priori, chez Monsieur Apple, on risque de l'avoir au dos aussi. Mmh. Parce que, bah, même problème d'écran, et il y a des capteurs qui arrivent, il y a des technos qui sont en développement pour avoir des lecteurs intégrés dans la dalle de l'écran, en fait.
Ce qui serait top.
Ce qui serait top, mais sauf que pour l'instant, ça marche pas. Alors, c'est pas que ça marche pas, c'est que c'est trop lent et qu'ils savent très bien que ça va saouler les gens et que, en plus, ça coûte, à mon avis, plus cher. Donc, ils ont dit, bah non, on va pas le faire. Et donc, la rumeur, c'est que le capteur, éventuellement, sur un malentendu, serait dans la pomme, en fait, au dos du téléphone, dans le logo. Ce qui permet de pas avoir de trucs. On verra bien l'annonce des, enfin, la conférence Apple, la date est tombée. Ça va être le 12 septembre. Donc, il y a plus longtemps à attendre et à bouffer des news vides de sens, pleines de rumeurs. On va enfin avoir du concret. Ça va faire du bien. Mais en tout cas, ce système d'avoir les trucs au dos sur pour lire l'empreinte digitale, moi, j'aimerais avoir vraiment votre avis sur le forum parce que je trouve que c'est juste complètement stupide. En plus, je trouve vraiment pas ça ergonomique de base. Même quand on l'a en main, je me dis que c'est vraiment un cas d'usage où les mecs se sont dit « Bah, dis donc, Bob, on n'a plus la place, là. On le met où ?»« Bah, là. » Et bon, bah ça s'est terminé avec un truc au dos complètement débile. Et je pense que vraiment, ça serait pas mal que les concepteurs de téléphones, tu vois, se posent des bonnes questions quand ils font des devices. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de course à l'armement sur des features débiles et qu'on oublie un peu l'agrément d'utilisation, finalement. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a, en plus, alors, je pourrais taper sur les téléphones Android qui font des supports de juste 2 ans, qui ont des features, finalement, qui sont tous les mêmes, ce qui tire le marché vers le bas et ce qui n'est pas bon à terme parce que je pense qu'il va y avoir des morts. Enfin, il y en a déjà régulièrement, mais ça va s'accélérer. Mais si à un moment, les gars se posaient 2 secondes en se disant « Mais de quoi les gens auraient vraiment besoin ? Qu'est-ce qui serait vraiment pratique ? Ça serait pas mal. » Et moi, à mon avis, dans les trucs, bah, les capteurs ID, enfin les Touch ID au dos des bordels, je suis pas persuadé que ça soit une grande idée. Et pour le coup, je te dis, c'est pas anti-Android parce que ça se trouve, il y aura du gros rent. Ce rent inclura Apple dès le 12. Parce que si vraiment ils ont fait ça, bah, je te confirme que je vais garder mon iPhone 6S, mon vénérable iPhone 6S, même maintenant, encore un moment parce que je déteste ces trucs auto. Voilà.
Mais je te confirme que moi, j'ai le même genre d'utilisation que toi, un téléphone posé sur le bureau. Et donc, devoir le déloquer en le soulevant à chaque fois, je pense que ça va rapidement devenir pénible.
Mais non, mais c'est complètement con. Et alors, voilà, essayez de nous convaincre que c'est pas grave. Je vous attends.
Et c'est la fin de ce 17e épisode de Torréfaction. On se retrouve, d'habitude, la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'info à 9h. Salut Kev, bon week-end.
Bah écoute, bon week-end à toi. Bonne nuit aussi, parce qu'en ce moment, on dort bien tous.
Ouais, oh fou, là. Destiny 2, donc, bientôt sur PC. La bêta vient de finir. Et peut-être qu'il y en aura encore une autre, on sait pas. On verra. Il est prévu quand le jeu?
Putain, t'arrêtes de me poser des questions chiantes.
Pardon?
Putain, t'arrêtes de me, putain, le
mec. Mais en fait, à chaque fois, je me dis, merde, on n'a pas dit ça.
C'est vrai. Tu sais quoi? En plus, avant que tu me poses la question, j'étais là, genre, il va me la poser. Il va me la poser.
Il est chiant, il va me la poser.
Et puis, j'ai pas la réponse, alors, putain. Destiny 2, date, sortie. Oh, t'es relou. Putain, je m'en fous. C'est pas moi qui fais le montage.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks.